jeudi. La semaine est déjà bien avancée. Et nous avons vécu beaucoup de choses. Certains ont même des expériences à partager. Et ce soir, nous sommes là pour approfondir un sujet important. Jésus au troisième millénaire. Quel rapport entre Jésus et moi ? Jésus homme et moi homme.
Bonsoir. Hier, jeudi, hier soir, c'est arrivé le printemps. Je pense que j'ai parlé trop vite. C'est pas sûr aujourd'hui si ça fonctionne avec la météo. Ce soir, le sujet, c'est pas Jésus dans cette dimension. Le titre est, comment c'est le titre? Quoi entre Jésus et moi? Quel rapport? Et parmi toutes les choses que vous avez mentionnées, au-delà des choses que vous avez dites, il y en a une. Au-delà des choses que nous avons étudiées cette semaine, il y en a une qu'il faut que soit sujet d'étude de notre part. Jésus, il s'est fait homme. Vous avez dit, il s'est fait petit, il s'est fait enfant. Il est devenu homme. Il était au milieu de nous comme un homme comme nous. Et qu'est-ce que cela a à faire avec nous? Alors, voilà, maintenant nous allons avoir ça. Il y a un texte avec lequel je vais commencer qui introduit un autre sujet pour lequel nous n'avons pas pris du temps, mais qui dans les Écritures est présenté comme le sujet pour lequel nous sommes loin de comprendre. Il y a toute une épître qui nous parle de ce ministère que Christ a assumé dès qu'il est monté au ciel. Mais il y a une phrase de l'apôtre Paul aux Romains que nous voulons la lire maintenant.
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Ça, c'est quelque chose qui n'est pas seulement un sujet pour lequel nous avons besoin de réfléchir, d'étudier, de contempler. Mais c'est quelque chose qui a été complètement oublié dans la prédication chrétienne. Il a été oublié. Il y a un théologien hollandais des Pays-Bas qui l'a dit, aujourd'hui les théologiens ont des difficultés à encadrer le fait que Jésus il est ressuscité. Et ça, c'est quelque chose déjà très grave. Mais il y a un autre théologien qui a dit, s'il y a une chose que la théologie a oubliée, c'est que Jésus, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et une des raisons pour lesquelles on ne parle pas de ça, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans le panorama des églises chrétiennes. Chaque jour, il y a quelqu'un pour lequel on s'adresse. Je ne sais pas si les calendriers ici en France, c'est comme les calendriers que nous avons en Italie, où chaque jour, il y a un ou plus de personnes qui ont été canonisées, qui ont été faites saintes. Vous l'avez aussi ici en France? Et là, sont toujours mentionné. Il n'y a pas un jour qui nous dit nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Il y a, je ne vais pas maintenant mentionner des noms, mais c'est plein. Il y a au Vatican, il y a un registre spécial. Nous avons dans nos églises des registres spéciaux. Il y a un registre spécial avec tous les noms des saints, des personnes qui ont été faites saints, pour lesquels les fidèles peuvent s'adresser pour demander aide et quelque chose, quelle que soit la chose. Mais la Bible dit que nous avons bien plus à nous confier, à nous adresser. Il y a quelqu'un, c'est écrit là, et ce n'est pas facile à expliquer, qui intercède pour nous. Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous, qui est vivant, qui l'a vaincu et a vaincu la mort. N'est-ce pas quelque chose de très, très beau, ça? Et cette idée qui a dit ce pasteur, cet évangéliste, il y a 8 années, il y a chaque vous savez qu'il y a des textes dans la Bible qui nous font penser qu'il y a des mondes qui sont habités. Il y a des textes dans le livre de Job. Jésus, dans sa prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aux cieux. Oh, bien sûr, il y a les anges. Et ça, c'est une autre chose que nous n'avons pas bien présente. Nous avons des anges qui sont là, et l'apôtre à l'épître aux Hébreux dit qu'ils sont là pour servir ceux qui sont sur le chemin du salut. Est-ce que vous avez eu quelquefois le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous a protégé, qui vous a épargné, qui vous a défendu, quelques anges, vous avez eu? C'est bon, hein? C'est bon avoir cette. Et maintenant que je suis en train de vous dire ces choses qui ne sont pas écrites là, je ne l'ai pas préparé, mais s'il y a quelqu'un du dehors qui nous écoute et que nous disons ces choses, il dit, mais ceux-là sont. Ils ont bu. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Jésus, il a vaincu la mort. Et il nous dit, est-ce que je peux vous demander de lire un texte biblique? En Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. Nous lisons chapitre 1 de l'Apocalypse et nous allons lire les versets 17 et 18.
Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et il dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. »
Comment vous dites avec une phrase comme ça? Vous ne dites pas « Amen ». Il faudrait crier, sauter, danser comme il faisait David. « Ne crains point, je suis le vivant. » J'ai vaincu la mort. Voilà, ça c'est un autre aspect que nous n'avons pas touché ces jours, mais je voulais ce soir seulement vous donner quelques miettes. On dit miettes, n'est-ce pas? Miettes. Maintenant, je vais entrer dans un autre thème. Un thème pour lequel il y a encore là quelque chose à étudier, à comprendre. Jésus s'est fait homme. Et ce n'était pas quand il était sur la terre un homme qu'il était. Oui, il a marché sur les eaux. Hein. Il a crié au vent, tais-toi. Tais-toi. Il a ressuscité des morts. Il a purifié des lépreux. Mais il était vif. Il avait faim. Il a eu soif. Il était fatigué. Il a pleuré. Il a été bousculé. Les premiers jours qu'il a commencé après son baptême, ses concitoyens les voulaient jeter dans un précipice. Et lui, il est échappé. Ils ont planifié plus d'une fois de les lapider. Il s'enfuit. Il n'avait pas peur, mais il a vécu comme un homme. J'ai deux phrases qu'on va lire maintenant. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus, homme, a, avec cette phrase, a pour nous quelque chose d'important à nous dire. Je suis homme comme vous, suivez mon exemple. Ça, c'est une chose que nous avons à réfléchir. Ce que Jésus a fait, il a dit, si vous croyez, si vous avez foi en moi, vous ferez, il n'a pas seulement dit, vous ferez le même. Une autre phrase, c'est toujours Jean qui l'écrit, mais c'est là, c'est, la première c'est la phrase de Jésus, la deuxième c'est Jean qui l'a dit. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alors, Jésus, homme, c'est quelqu'un qui a un exemple à nous donner. C'est quelqu'un qui est notre exemple, qui a ouvert un chemin pour lequel nous pouvons nous commencer à marcher. Ça, c'est déjà quelque chose qui est très important. Nous n'avons pas d'exemple. Oui, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur du Christ. Ça me touche beaucoup l'exemple de Moïse. Quel homme, quel héros, même s'il a fait des bêtises, et il a fait des bêtises, mais il a eu une passion pour son peuple qui est un exemple pour chacun de nous, soit que nous sommes des leaders ou que nous ne sommes pas des leaders. Moïse, quel homme. Et il y a, à la fin du Deutéronome, il n'y a plus eu un homme comme Moïse. Pensons au prophète, pensons à Samuel, pensons à Isaïe, à David, David, il n'était pas toujours. Il a fait des. C'est pas suffisant de dire des bêtises. Il a fait des choses très, 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 très graves. Mais il y a des hommes comme Daniel. Daniel, c'est pas écrit que Daniel avait une famille. Daniel, quel homme Daniel! Quel prophète Daniel! Quel homme de Dieu Daniel! Daniel a vécu la même expérience du test que nous avons lu avant. Daniel et Jean vivent l'expérience, ils tombent au pied de Jésus et Jésus les touche. N'aie pas peur. Et même à Daniel, Jésus s'est adressé, il a parlé et il l'a touché. C'est le même, hein? Nous n'avons pas le temps ici pour voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire que nous sommes, que nous avons Jésus comme modèle? Est-ce que ça veut dire que nous devons marcher sur l'eau comme lui? Que nous devons ressusciter des morts? Purifier des lépreux? Multiplier les pains, les poissons? Oui. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait des choses pareilles. Vous vous rappelez Élie, qu'il avait faim? Et a dit à un veuve qui avait un peu de farine et un peu d'œil, d'huile, non d'œil. Fais d'abord pour moi et après ce sera pour toi. Comment tu parles? Cette veuve n'a rien, toi tu fais d'abord pour moi. Mais après, quelque chose est arrivé. Qu'est-ce qui signifie que Jésus est devenu homme comme nous et qu'il est notre exemple? Qu'est-ce que ça signifie? Ce soir, je vais reprendre ce test, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Qu'est-ce que signifie? Est-ce que ça signifie que nous devons mirer à faire ce qu'il a fait? Est-ce que c'est notre exemple pour cela? Oui, aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus. Nous devons faire comme lui, il a fait. Quel des deux vous pensez que c'est le premier exemple qu'on doit prendre?
C'est le second, parce que Dieu dit que ces choses, c'est lui qui les ferait en nous.
Voilà. Alors, c'est ça.
C'est lui-même qui les ferait.
C'est ça que je veux mettre au feu ce soir. C'est ça que je veux mettre au feu ce soir avec vous et que je veux, à travers cela, apprendre une leçon importante pour chaque jour de notre vie. Parce que Jésus est tout ce que nous avons vu et encore plus, mais il veut être le moteur de notre vie, la puissance qui agit en nous. Il veut être celui qui travaille à travers nous. Et nous allons lire quelques textes. Et maintenant, je demande au lecteur officiel.
Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Je ne puis rien faire de moi-même.
Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose que nous devons bien mettre au clair à nous. Jésus, il est venu comme homme. Il aurait pu utiliser tous les pouvoirs qu'il avait. Il aurait pu faire des choses comme il est capable de faire, mais il a refusé d'utiliser, voilà, j'utilise quelque chose qui peut-être c'est pas la meilleure façon d'exprimer. Il a renoncé à tout ce qu'il était pour être comme nous, parmi nous, et vivre la même réalité que nous vivons. L'apôtre Paul dira, ou c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il a été en toutes choses comme nous, sauf quoi? Sauf le péché. Et là, il y a aussi là des choses critiques à réfléchir. Mais Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je suis impuissant de faire des choses, sinon, voilà, il y a une autre phrase que je veux mettre maintenant. Et Jésus a dit une chose très importante qui est pour nous une leçon.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.
Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais il dit aussi, le Père demeure en moi et il fait les choses à travers moi. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre à la lumière des textes que nous avons lus tout à l'heure. Si Jésus aurait pu faire pour soi-même toutes les choses comme il était capable de faire, il n'aurait pas pu être un exemple pour nous. Il n'aurait pas pu être un exemple pour nous. Parce que, imaginez-vous, il vient ici les champions du monde qui soulèvent les poids, comme on dit.
Haltérophile.
Il y a quelqu'un au monde qui a soulevé 500 kilos. Et après, il vient là et Matthieu dit, maintenant, fais comme lui. Quand j'étais jeune, j'ai soulevé jusqu'à 5 kilos. Mais maintenant, je tombe. Il faut beaucoup d'exercices pour arriver à soulever peut-être 70, 60, 80 kilos. 500 kilos, oublie-toi. Si Jésus aurait fait par lui-même, il ne serait pas un exemple pour nous. Mais lui, il a renoncé à ce qu'il pouvait faire pour être l'exemple pour nous. Et ce qu'il a fait, c'est que le Père demeurait en lui d'une façon comme il peut demeurer en nous. Et voilà deux phrases qui sont importantes pour nous. Alors, ça, nous l'avons déjà lu. Et Jésus dira, par rapport à nous, quelque chose qui est similaire, qui est semblable. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce qu'il est, il était lui-même, nous sommes. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes quand lui ne pouvait rien faire par lui-même. Et alors c'est là qu'il devient pour nous le modèle. Et c'est là que nous avons besoin d'apprendre comme il a fait. Alors, reprendrons la phrase que nous avons lue tout à l'heure. Le Père est à moi. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas, je ne les dis pas de moi-même, elle est le Père qui demeure en moi qui les fait. Alors ça, c'est la leçon que ce soir, je voudrais partager avec vous. Et je suis sûr que vous avez des expériences à partager pour cela. Alors, je vous raconte une expérience que j'ai faite, qui m'a mis... Je pourrais vous montrer la photo de la personne. J'avais prêché un samedi matin à Zurich sur ce texte. J'avais préparé un autre texte, un autre thème. Mais quand j'étais là, j'avais écouté les expériences pendant les temps de parmi l'école du sabbat, entre l'école du sabbat et la prédication. Il y avait l'offrande. J'avais ma Bible et je me suis dit, mais il y a, je voudrais, parce que j'avais choisi de prêcher sur les premiers chapitres du chapitre, les premiers versets du chapitre 14. Mais mes yeux sont tombés sur ce texte-là. Et j'ai prêché sur ce texte. Je crois que le Saint-Esprit m'a inspiré. Vers soir, j'ai pris le train pour aller de Zurich à Lugano. Et j'ai ouvert de nouveau la Bible sur ce texte, avec l'intention de comprendre un texte, avec l'intention de comprendre un peu mieux, parce que pendant la prédication, je pense que c'est quelque chose qui arrivait à chacun. Vous avez parfois eu la possibilité de témoigner, mais quand vous êtes là, que vous parlez, il y a une sorte d'inspiration qui vous prend, vous dites des mots que vous n'aviez même pas pensé avant. Est-ce que ça c'est arrivé? Hein? C'est la même expérience que j'ai faite quand j'étais en train de prêcher ce test. Et j'étais dans les trains, il y avait une dame à côté de moi, et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à faire cette expérience aussi. Il y avait une dame à côté de moi qui lisait une revue, je suis tourné vers elle, Guten Tag, ça veut dire bonjour. Elle a fait comme ça. Ça ne marche pas. Et la femme, j'ai déjà dit quelque chose pareil? Non. La femme qui était devant elle, elle s'est tournée. Elle m'a, comme si, elle avait peur que j'aurais dit quelque chose à elle aussi. Elle ne voulait pas entendre Guten Tag, peut-être parce que je ne l'ai pas bien dit. Alors je dis, Seigneur, ça ne marche pas. Comment je dois faire? Et j'ai commencé à prier. Et j'ai prié, j'étais tout près de la fenêtre du train. Et vous savez que tout près de la fenêtre, il y a une petite table. Et vous savez que tout près de la fenêtre, il y a une petite table dans les wagons. Vous avez voyagé en train? Et bien sûr. Alors, j'ai mis la Bible là. J'avais une Bible pas comme ça. Ça, c'est pas seulement la Bible. Il y a de tout ici. J'avais la Bible en italien. Et je me suis mis comme ça, faisant semblant de dormir. Mais j'étais en train de demander à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas, tu dois faire quelque chose. Et j'ai dit une chose que je me suis rendu compte après que c'est un peu exagéré. J'ai dit, si tu veux que je parle avec quelqu'un, ici il y a la Bible. Quelqu'un doit me demander d'étudier la Bible avec lui. C'est un peu osé, hein? Et j'ai plus ou moins prié pour 10-15 minutes, jusqu'à ce que le train s'est arrêté à la gare suivante. Comme le train était en train de partir, j'ai ouvert les yeux. Et voilà qu'il y avait devant moi un jeune homme. Et moi, j'étais en train de réfléchir, regarder la fenêtre. Je ne voulais pas regarder lui. Il était en train de lire un livre en allemand. Alors, s'il parle seulement à moi, pour moi, ce n'est pas le cas. Je peux dire Guten Tag, Jawohl, mais pas plus. Mais cet homme, il a commencé à regarder à moi et à regarder à la Bible. À moi et à la Bible. À moi et à la Bible. Et moi, j'ai commencé à être, mais qu'est-ce qu'il veut? Et après un instant, en italien, parce que j'avais la Bible, j'avais prêché en italien, il me dit, mais tu leggi la Bible, tu lis la Bible. Oui, je la lis, je la te dis, je l'enseigne aussi. Ah, tu enseignes la Bible. Est-ce que tu peux m'enseigner la Bible maintenant? Exactement comme j'avais demandé à Dieu. Et pendant 2h30, le temps que le train arrivait à Lugano, on a parlé. Oui, tout de suite, avant de commencer à parler, j'ai dit, wow, le Seigneur m'a répondu. On a parlé, on s'est échangé le numéro de téléphone, la direction email, et après, on s'est donné rendez-vous voire téléphone. J'ai téléphoné, il ne répondait pas. J'ai envoyé des emails, il ne répondait pas. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as mis en contact d'une façon si grande et maintenant je n'arrive pas à toucher, à entrer en contact avec cette personne. Pendant 4 mois, pas de réponse. Bon, peut-être que c'était quelque chose, quelqu'un, j'ai l'illusion, mais ce n'est pas vrai, si je vais penser à ça. Quand un jour, il me téléphone, il me dit, Paolo, je suis à Berne, est-ce qu'on peut se voir? Oui. Viens ici chez moi. Tu prends le bus numéro et tu t'arrêtes là. Et je viens dans l'arrêt du bus. Il est venu, il est arrivé. Et moi, je suis 1,71. Lui, il est comme ça. Et c'est comme Goliath et David. Et je lui ai dit que j'étais pasteur adventiste, que j'ai travaillé à Berne, etc. Je lui ai fait voir les bureaux où je travaille, non les bureaux. Et après, on est allé chez moi, je me suis assis. À ce temps-là, j'avais environ 120 Bibles. Maintenant, c'est 229, avec les Bibles que j'ai reçues ici. Et j'ai fait voir mes Bibles. J'ai fait voir une Bible qui a une grande valeur, parce que là, il m'a dit qu'il était à Berne, qu'il terminait ses études en théologie pour devenir un pasteur. J'ai avalé de la salive. Et vu qu'il m'a dit ça, j'avais à côté de moi, j'étais assis sur le sofa, une mallette avec une étude que j'avais terminée il y avait quelques jours, une étude de 22 pages en italien sur les livres de Daniel que j'étais mis dans la... C'est une étude qui démontre que le livre de Daniel a été écrit au 6e siècle et non au 12e siècle. Et lui, il prend cette étude derrière, toi tu étudies théologie, j'ai quelque chose pour toi. C'était l'unique copie que j'avais là, j'ai le file, mais j'ai les fichiers. Il regarde là Et il dit, Daniel, il était venu à Berne pour chercher des livres dans la faculté protestante de Berne parce qu'il devait préparer sa thèse. Il était en train de terminer. C'était le mois de mai, le mois de septembre, il devait commencer à travailler comme pasteur à Zurich. Il regarde, il ouvre, il dit, moi, je n'ai jamais étudié les livres de Daniel. 5 années de théologie, tu as fait cela, mais moi, je n'ai jamais étudié. Et je lui dis, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Et il me demande, est-ce que nous pouvons étudier les livres de Daniel ensemble? Deuxième fois. Et maintenant, vendredi prochain, j'ai rendez-vous avec lui pour étudier la Bible. C'est un pasteur d'une église de 2000 membres. Ils sont 3 pasteurs dans cette église. Plusieurs fois, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu m'as fait rencontrer avec cette personne? Et j'ai prié, est-ce que je dois continuer? Je prends rendez-vous quand on termine l'étude biblique et je dois rendre honneur à l'engagement. Mais quand je vais, je dis, mais ce n'est pas la peine que je prenne du temps pour lui. Mais à la fin de l'étude que nous faisons, nous avons étudié tous les livres de Daniel, je demande à lui de prier. Et il remercie le Seigneur pour l'étude que nous avons fait. Et puis il me dit, quand tu viens la deuxième fois, la prochaine fois? Et là, je dois y aller. J'ai demandé à mon président, j'ai raconté à lui l'histoire, il l'a connu. Et il me dit, continue. Et il y a quelques temps, il m'a dit, mais quand un protestant comme moi veut devenir adventiste, il doit se rebaptiser, clic. Et une autre fois, il m'a dit, on était en train de discuter, pour moi c'est un problème, le thème du sabbat, pourquoi le sabbat? Il faut que nous réfléchions sur le sabbat, ce n'est pas encore arrivé le moment. On a terminé Daniel, l'engagement c'était d'étudier les livres de Daniel. Et alors j'ai dit, bien, on a terminé. Comment, maintenant nous devons étudier l'Apocalypse? Et maintenant, vendredi, avant de venir ici, j'étais sur lui, j'ai dit quelque chose peut-être. On a étudié le chapitre 9 de l'Apocalypse. Alors, on fait comme ça. Daniel, j'ai donné les études bibliques. Mais l'Apocalypse, il a étudié l'Apocalypse aussi. Et lui, on lui dit, bien, alors on fait comme ça. On choisit un chapitre, on a commencé chapitre après chapitre. Hein? Pas comme Daniel, qu'on a étudié les 4 prophéties. Et lui, il commence avant, parce qu'il a des choses intéressantes à dire aussi. Et après, et le chapitre 9, il savait pas d'où commencer. Et j'ai expliqué le chapitre 9 selon l'interprétation classique adventiste. Et il a dit, waouh, l'Apocalypse, chapeau. Priez pour cet homme. Il s'appelle Joël Bishop, qui en allemand signifie Joël le berger. Il est un pasteur. Et je ne sais pas, il a commencé à prêcher dans son église ce que nous avons étudié sur le livre de Daniel. Je ne sais pas le plan de Dieu. Mais c'est la réponse à une prière sur laquelle j'étais inspiré par ce texte que vous lisez dans l'écran. Ce que j'ai fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais Dieu le Père, mon Père, travaille en moi. Et l'expérience que nous avons besoin de faire, c'est justement la même. La relation que Jésus a eue avec son Père, c'est la même que nous pouvons avoir avec lui. Lui, il est pour nous ce que le Père était pour lui. Est-ce que tu veux lire ce texte?
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Est-ce que c'est clair quel est le rapport entre Jésus et moi? Les titres un peu bizarres. Quoi entre Jésus et moi? C'est clair? Ça, c'est très important. L'apôtre Paul disait, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si le Christ est en nous, nous pouvons faire, un peu des choses qu'il a fait. Et c'est vrai, l'expérience que j'ai faite avec Joel Bishop, c'est l'expérience que pour laquelle j'apprends que ça, c'est une loi pour nous. Et il y a un texte, le suivant que je vais vous montrer, qui fait la synthèse de tout cela. Chez Jean 6, 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vous voyez la relation entre Jésus et Dieu le Père, et nous et Jésus. Et ça, c'est l'expérience que, comme Église, nous avons besoin de faire. C'est l'expérience que chaque personne qui est ici, qui soit catholique, protestant, etc., a le droit de faire. Ce n'est pas quelque chose seulement pour les pasteurs, pour les anciens d'Église, pour les présidents. Non, c'est l'expérience que chaque membre, humble qu'il soit, peut faire. Vous croyez à ça? Vous croyez vraiment? Ça, c'est le défi que l'Évangile nous donne. Oui, Jésus, il est venu, il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il nous amène avec lui. Il nous a ressuscité avec lui et nous sommes avec lui. Lui, il est là, notre représentant. Et un jour, nous les verrons face à face. Mais maintenant, nous avons la possibilité de faire cette expérience. C'est là la plénitude de l'Évangile. Ces textes, vous les connaissez très bien, les cèpes et les serments. Ça, c'est l'expérience de l'Évangile. Ça, c'est la proposition que Dieu nous fait de vivre cette réalité. Un autre texte qui nous explique quelque chose. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Là, il y a une autre leçon. C'est le même texte, le même contexte de Jean 6, 57 qu'on a lu tout à l'heure. Comment nous pouvons réaliser cette expérience avec Jésus? De la même manière que Jésus a vécu la même expérience avec son Père. En Ésaïe 54, vous lisez que tous les matins, le Père les réveillait et lui parlait. Et dans la Bible, nous avons sa parole. Sa parole est esprit et vie. Et Jésus passait longtemps en prière. Et la prière, ce n'est pas la liste des choses à demander à Dieu seulement. Oui, nous avons le droit de demander ça. La prière, c'est l'audience avec Dieu. Une autre expérience. J'étais à Rome, président d'Union, et un jour, la secrétaire qui était à la réception reçoit un coup de fil. Et il y a quelqu'un qui veut parler avec moi. Elle dit, Paolo, il y a au téléphone quelqu'un qui a dit qu'il est président de la République, qui veut parler avec toi. Mais moi, je crois que c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui déclare d'être. Et elle était là, elle commençait à parler. Et, écoute, c'est le président qui veut parler. Et passe-moi, il attend. C'était le président de la République. Qu'il dit, pasteur Benigni, est-ce qu'il pouvait venir dans mon bureau? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai un rendez-vous maintenant. Il y a ma femme qui m'attend. J'ai demandé à la secrétaire d'appeler un taxi tout de suite. Et je suis allé. Ce président de la République s'appelait Scalfaro. On a commencé à étudier la Bible. Après, un autre à prima place comme président, et il a continué à étudier la Bible avec lui jusqu'au jour qu'il est mort. Mais nous avons le privilège beaucoup plus haut, pas d'entrer dans les bureaux du président de la République, mais entrer en communion avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et la prière, c'est notre, je ne sais pas comment on dit en français, l'audience avec Dieu. On dit audience. La prière, c'est entrer en audience avec Dieu. Wow! Est-ce qu'il y a un autre privilège plus grand? Madame White dit, dans ses écrits, que tous les matins, le Père appelait le Fils et ils parlaient ensemble. Et nous avons les mêmes privilèges avec Jésus, à travers la parole et la prière. Vivre une relation d'amitié à travers la lecture, la méditation, la prière, l'adoration. Ça, c'est le privilège que, comme enfants de Dieu, qui ont été ressuscités avec lui, ont le privilège de vivre chaque jour gratuitement. Eh oui, c'est gratuit ça. Vous n'avez rien à payer. Moi, j'ai pris le taxi pour aller chez le président. Mais avec Dieu, il est mort. Oui, il était président. Alors j'ai appelé le secrétaire de venir avec moi, parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait. Et quand nous sommes entrés, nous sommes assis, il y a toujours les gens qui font les photos. Et Et alors on s'est mis là, les photos. Et après, le président dit, non, j'ai besoin de parler seulement avec ces deux hommes-là. Pas des journalistes, pas... Oh, qu'est-ce qu'il faut? Et après, quand je suis sorti, ils m'ont donné la photo. Je l'ai amenée à ma mère, elle a fait un 4. Nous avons le privilège d'entrer à la présence de Dieu. Dans le sanctuaire, c'est écrit. Nous avons le privilège de réaliser cette intime communion à travers la lecture, la méditation, la prière et l'adoration. Et voilà un autre texte que je vais, pour terminer, lire avec vous. Il y a encore quelques textes.
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.
Quel beau texte! N'est-il pas beau? Oui ou non? Oui ou non? Ah. Notre communion est avec le Père et les fils. Mais ici, il y a un test qui nous concerne, qui nous engage à rendre partie aux autres de cette communion. Et si vous n'avez pas comme personne à demander à Dieu, à partager avec ces personnes Dieu, vous savez comment faire? Comme j'ai fait avec Joel Bishop. Et dès que j'ai appris, c'est une expérience que j'ai faite depuis longtemps. Et grâce à cela, j'ai une quinzaine de personnes dans ma liste pour étudier la Bible. Parce que Dieu connaît les personnes, connaît tous ici, Adam Marie Lélis, connaissent les personnes de Melun. Mais non, il connaît tous celles de l'île de France. Plus. Et lui, il peut nous amener les personnes pour partager ce que nous avons vu et entendu. Ça, c'est la réalisation de cette expérience avec le Christ. Quel test celui-là? Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul vient au Père qui est par moi. Et je ne sais pas s'il y a encore la distribution de cela. Vous pouvez vous engager si vous ne l'avez pas encore fait, de vivre cette expérience. Parce que c'est la plus grande des expériences qu'un être humain peut vivre dans cette terre. N'importe quoi qui vous êtes, homme, femme, adulte, enfant, nous avons sept privilèges avec le Christ. Amen.